9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Merci d'écouter RFI. Et tout de suite, c'est le journal présenté par Xavier Besson.
Et nous serons dans un instant en Afrique du Sud, rare pays africain à réagir à l'escalade de la guerre entre Israël et l'Iran et les bombardements américains. Dans la nuit de samedi à dimanche, Pretoria qui appelle les trois pays à régler leurs différends par la voie diplomatique. Dans ce journal également, correspondance à Kinshasa après la rencontre ce week-end entre le président Félix Tshisekedi et des religieux catholiques et protestants qui plaident pour un grand dialogue national. Le Gabon et le président Oligui Nguema qui annonce la création à venir de son propre parti politique. Enfin, reportage à Essaouira au Maroc où vient de s'achever le festival de musique Gnawa. L'attaque des États-Unis entache la crédibilité de Washington, estime ce matin la Chine. Pékin qui dit craindre de voir la situation, je cite, devenir hors de contrôle. Au Moyen-Orient, cette situation, c'est Israël qui annonce de nouveaux bombardements en Iran. Après que pour la première fois dans la nuit de samedi à dimanche, les États-Unis ont frappé les installations nucléaires iraniennes. Cette nuit, le président américain s'en est même félicité et il a commencé à évoquer un éventuel changement de régime à Téhéran. En Afrique du Sud, où l'ANC au pouvoir conserve de bonnes relations avec le régime iranien, le gouvernement appelle lui au dialogue et à la mise en place d'une solution diplomatique. Claire Bargelès.
C'est avec, je cite, une grande angoisse que la présidence sud-africaine observe la situation et l'intervention des États-Unis, comme le détaille son porte-parole Vincent Magwenya.
L'Afrique du Sud nourrissait un espoir sincère de voir le président Donald Trump utiliser son influence et celle du gouvernement des États-Unis afin d'encourager les différentes parties à emprunter la voie du dialogue. Le pays appelle les États-Unis, Israël et l'Iran à laisser aux Nations Unies la possibilité de mener une résolution pacifique de leurs différends, y compris en ce qui concerne l'inspection et la vérification du niveau d'enrichissement de l'uranium par l'Iran, ainsi que plus généralement de l'état de ses capacités nucléaires.
Les deux pays entretiennent des liens cordiaux et se retrouvent désormais au sein du même groupe des BRICS depuis l'entrée de l'Iran. D'autres factions politiques réagissent encore plus fort, notamment le parti de Jacob Zuma qui qualifie l'attaque américaine de déclaration de guerre, ainsi que le leader de la gauche radicale, Julius Malema, qui s'est déjà attiré récemment les foudres de Donald Trump.
Nous exprimons notre pleine solidarité avec l'Iran, un pays assiégé par l'impérialisme occidental et qui a choisi l'indépendance. Nous soutenons son droit à se défendre par tous les moyens nécessaires. Que l'État d'Israël goûte enfin à la dévastation et à la violence infligée à Gaza.
Des réactions qui ne devraient pas faciliter la normalisation des relations avec les États-Unis, très tendues depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
RFI, 9h33 à Goma, en République démocratique du Congo, où cela fait bientôt 5 mois que les rebelles de la FCM-23, soutenus par le Rwanda, ont pris le contrôle de la capitale du Nord Kivu, avant de s'emparer de larges pans de la province, mais aussi de l'autre grande ville de la région, Bukavu. Des mois aussi marqués par l'initiative des religieux catholiques et protestants congolais, la CENCO et le CC, qui ont rencontré de nombreux acteurs nationaux et internationaux. Ils plaident aujourd'hui pour un grand dialogue national et ils ont pu présenter avant-hier leur rapport et leur point de vue au président Félix Tshisekedi. À Kinshasa, correspondance de Pascal Moulégois.
La rencontre devait se tenir jeudi, mais le président Félix Tshisekedi l'a renvoyé à samedi. Conséquence, deux figures clés du clergé congolais étaient absents, le cardinal Fridolin Ambongo et l'archevêque Fulgence Muteba, président de l'épiscopat, respectivement retenus à Rome et à Lubumbashi. Pour un proche conseil présidentiel, c'est une marche sur les œufs pour Félix Tshisekedi quand on sait que l'initiative des évêques et des pasteurs fait l'unanimité au sein de l'opposition. Comment l'épouser sans se poser des questions, interroge-t-il en rappelant que certaines figures de l'opposition sont soupçonnées d'intelligence avec le Rwanda et l'AFC-M23. Il assure toutefois que le président Félix Tshisekedi reste disposé à accompagner l'initiative des églises. Selon Mgr Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, la principale avancée de la réunion de samedi a été la décision de mettre en place une équipe de travail chargée d'approfondissement du projet du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Ce pacte est porté conjointement par l'Église catholique et l'ECC vise à restaurer la cohésion nationale dans les contextes politiques et sécuritaires actuels. Reste que certains caciques du régime affichent depuis plusieurs mois leur opposition au projet de la CENCO et de l'ECC. Pascal Moulégois, Kinshasa, RFI.
à l'est congolais où cela donne un aperçu, une idée de la situation sur place. Dans la région, il est devenu très difficile de trouver de la bière et cela ne devrait pas s'arranger puisque Heineken confirme avoir perdu le contrôle de ses principales installations dans la zone. Heineken qui avait déjà signalé des pillages dans ses usines et qui estime désormais que les conditions ne sont plus réunies pour continuer la production, nous explique Alexis Bédu.
Les brasseries de Bukavu et Uvira sont désormais aux mains d'hommes armés. Le dépôt de Goma est également officiellement fermé. Déclaration ce vendredi du brasseur Heineken qui précise avoir perdu le contrôle de toutes ses installations dans l'Est depuis déjà plus d'une semaine. Pour Heineken, la priorité absolue, c'est, je cite, « la sécurité et le bien-être de ses employés ». Leurs salaires seront d'ailleurs maintenus. Les installations de Bukavu employaient environ 1000 personnes directement et indirectement. L'usine de la Bralima, la branche congolaise d'Heineken est située dans le quartier de Nkafu. Elle est régulièrement pillée depuis plusieurs mois. Des coups de feu y ont été entendus dimanche dernier. Par ailleurs, une pénurie de bière frappe toute la région depuis plusieurs semaines. Les bouteilles s'arrachent désormais à prix d'or, raconte un habitant. Des marques comme l'Amstel et la Primus sont produites dans les brasseries de Bukavu et d'Uvira. Cela représente un tiers des activités du groupe néerlandais en RDC. Heineken possède 3 autres brasseries dans le pays, à Kisangani, Lubumbashi et Kinshasa, qui, elles, restent opérationnelles.
Alexis Bédu, quel paysage politique pour le Gabon, alors que les autorités sont en train de plancher sur une réduction du nombre de partis politiques, et alors aussi qu'après la présidentielle, on attend désormais des élections législatives. Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema annonce qu'il va lancer sa propre formation, lui qui s'était présenté à la présidentielle en tant qu'indépendant. Il donne rendez-vous samedi prochain à Libreville. Yves-Laurent Goma.
Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé le rendez-vous de samedi via une vidéo enregistrée sous un arbre. On le voit entouré d'une dizaine d'hommes et femmes.
Le suffrage universel que vous m'avez accordé exige désormais la mise en place d'un outil politique capable de rassembler toutes les énergies constructives de notre nation. Aussi, ai-je l'honneur de vous inviter à l'Assemblée générale marquant l'avènement de notre mouvement le samedi 28 juin 2025 à 10h.
Une des principales figures de l'opposition, Jean-Rémi Yama, reconnaît le droit de l'actuel chef de l'État de créer un parti. Il regrette tout de même ce choix.
Ce n'était pas nécessaire parce que la Constitution donne tous les pouvoirs au président Oligui à tel point qu'il n'a plus besoin de majorité à l'Assemblée. Ce sera la création d'un PDG bis, les mêmes tares qui ont été observées dans le cadre du PDG. Je pense qu'elles se reproduiront dans ce parti.
Mardi dernier, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi sur les partis politiques. Il a pour but de réduire le nombre de formations politiques de 103 actuellement à 3 ou 4 partis seulement, comme recommandé lors du dialogue national inclusif d'avril dernier. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
RFI 10h38, à Moroni et à Antananarive, un deuxième avion malgache va être mobilisé et des recherches se poursuivent, mais on n'a toujours pas de nouvelles ce matin du navire Asfardat et Windio, parti des côtes malgaches la semaine dernière et qui n'a jamais atteint les Comores. Et au fur et à mesure que les jours passent, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. À Moroni, Abdallah Mzembaba.
Le bateau devait accoster à Mutsamudu le 19 juin, mais depuis son départ de Majenga 3 jours plus tôt, plus aucun contact. À bord de ce caboteur long de 23 mètres, 11 membres d'équipage et 19 passagers, majoritairement malgaches ainsi que 4 Comoriens et un ressortissant afghan. Dès l'alerte donnée, une vaste opération de recherche a été déclenchée. Les gardes-côtes comoriens, la gendarmerie ainsi que les autorités maritimes de Madagascar et de la région ont été mobilisées. Les zones de fouilles s'élargissent chaque jour, aussi bien en mer que dans les airs. Un deuxième avion malgache est attendu en renfort pour intensifier les survols, rapporte la ministre comorienne des Transports, Yasmine Hassan Al-Fein. Selon les gardes-côtes comoriens, les conditions météorologiques étaient stables au moment du départ. Le caboteur était équipé de 2 moteurs. Plusieurs hypothèses techniques sont évoquées, surcharge, voie d'eau, chavirement, mais aucune n'est confirmée. Les autorités restent prudentes. La priorité, c'est de retrouver des traces de l'embarcation, affirme Yasmine Hassan Al-Fein. 7 jours après la disparition du bateau, le dispositif de secours reste actif avec une coordination régionale. Abdallah Mzembaba, Moroni, RFI.
Dans l'actualité ce matin également, le Niger où l'on signale la mort d'au moins 48 civils dans la nuit de samedi à dimanche dans la zone dite des trois frontières avec le Mali et le Burkina Faso, précisément dans le village de Manda où des hommes armés ont fait irruption à la tombée de la nuit dans cette zone sous influence des djihadistes du Jnim. La Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara qui entretient le suspense sur une éventuelle candidature à un quatrième mandat. Ce week-end, son parti l'a désigné candidat. Elle lui a affirmé qu'il donnerait sa réponse dans les prochains jours. Enfin, avant de retrouver Andréane Mellard, nous allons au Maroc, à Essaouira, où vient de se terminer le Festival de la culture Gnawa. Une édition qui, une nouvelle fois, a fait la part belle aux fusions, rencontres d'artistes locaux et des invités. Reportage de Guillaume Thibault.
On ne parle pas la même langue, mais on joue les mêmes notes. Comme un bon plat, la fusion Gnawa doit mijoter longtemps. Prenez donc un griot né en Côte d'Ivoire, Ali Keïta, ambassadeur du balafon dans le monde entier, capable de jouer du jazz comme du reggae.
Bon, les musiciens, comme je dis, on est devenus musiciens modernes. Le griot a un grand rôle à jouer pour pouvoir faire la paix dans le monde. Parce que sans la paix, il n'y a rien qui avance.
Ajoutez des pincées de saxophone et une base solide, la batterie du français Tao Erlich, fils du mythique Loy, batteur notamment de Youssou N'Dour et directeur artistique du festival Gnawa durant 10 ans.
Du coup, je suis venu de ma naissance, quoi, du premier festival. J'ai dû venir une dizaine de fois. C'est une musique qui a bercé mon enfance et ça reste une grosse influence dans mon jeu de batterie.
Pour enrichir cette fusion, posez une voix sublime, celle d'Ajar Alaoui, né à Salé, mais qui est venu vivre à Essaouira pour pénétrer cette mythique tradition Gnawa.
Comme la vie, on ne peut pas être toujours heureux ou bien toujours malheureux. Le chant, il exprime ce que tu sens pour une période dans ta vie.
Au final, cette sauce fusion a pris avec un incandescent concert sur la grande scène Moulay Hassan. Guillaume Thibault, Essaouira, RFI.
À Essaouira, au Maroc, il est maintenant 8h42 et vous êtes avec Andréane Mellard pour la suite d'RFI Matin.